Bonjour à toutes et à tous, curieux et curieux du lundi. Vous qui avez faim, faim de culture et d'agriculture de qualité, vous qui peut-être vous demandez, comme moi, pourquoi les pauvres devraient manger du pâté bon marché et en plus ne pas avoir la satisfaction de participer à un système plus vertueux d'agriculture bio ou tout au moins respectueuse de l'environnement? Oui, pourquoi? À vous et à tous les autres, bonjour et bienvenue dans l'Onde Curieuse. Sans surprise donc, au menu aujourd'hui, on parle d'alimentation, mais pas que. Ajoutons dans cette équation une agriculture de qualité et un système démocratique de choix dans l'alimentation. Articulons tout ça avec enthousiasme, finesse, conviction et une vision large et volontaire, et nous obtenons un projet, un modèle qui s'expérimente ici et là depuis plus de 4 ans, porté par une dizaine d'associations au niveau national, une sécurité sociale alimentaire. Aujourd'hui, cette idée prend racine en Ardèche et on en parle avec nos deux invités, Alicia Byrne, qui est coordinatrice des CIVAM d'Ardèche. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Et Pierre-Yves Marais, arboriculteur à Saint-Michel-de-Boulogne, engagé dans la construction de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation à Aubenas et en plus porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi ancien de Fréquence 7.
Peut-être.
On parle de tout ça dans un instant, mais avant, quelques infos agenda. Allez, c'est lundi, on commence avec un petit peu de légèreté. Lundi, en plus, c'est les vacances. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, de 14h à 17h, à la salle Volane au Quinconce, à Vals-les-Bains, il y a un atelier de fabrication de masques qui est animé par la compagnie Dirt Théâtre. Et dans ces ateliers, chaque participant crée son propre masque ou sa marionnette. Alors bien sûr, on vous guide à travers les différentes techniques, les outils, les matériaux. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pendant l'atelier. C'est mieux, enfin c'est selon votre choix, ce que vous voulez faire de votre enfant avec des ciseaux ou des aiguilles. Et c'est les enfants à partir de 4 ans. Et c'est gratuit, ce qui ne gâche rien. Demain, l'association Les Foyers de l'Oiseau Bleu fête ses 45 ans à Payzac et propose pour la journée, une journée découverte, rencontre, débat, le tout un peu festif. Alors Les Foyers de l'Oiseau Bleu, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas là en Ardèche pendant toutes ces années? C'est une asso qui permet aux plus précaires de trouver un nid et les conditions pour reprendre leur envol. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Le matin, une table ronde sur le thème « Le logement, facteur d'insertion », qui sera animée par Manuel Domergue, qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Tout cela en la présence du vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité d'Auvergne-Rhône-Alpes et Patricia Valmac, la sous-préfète de l'Argentière. Il y aura bien sûr à cette rencontre pas mal de professionnels concernés par le sujet, et puis les salariés, les adhérents de l'asso. Donc ça c'est le matin, l'après-midi, l'asso ouvre ses portes à partir de 14h à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les différents services et les actions qui sont menées par les foyers de l'Oiseau Bleu. Et puis plein d'animations gratuites, bien sûr, pendant toute l'après-midi. Et le top, mais attention, pas uniquement en cette saison, il y aura le haut et le bas. C'est un défilé de mode, ouais, mais jeu de mots un peu vaseux. C'est un défilé de mode de vêtements de seconde main porté par le chantier d'insertion de l'atelier. L'atelier qui fête ses 10 ans cette année et donc qui se tiendra en fin d'après-midi. Un chouette défilé de mode. Et puis, bien sûr, on termine par une petite castagnade offerte par l'association. Un petit apéro, quoi. Donc ça, c'est demain. Apéro avant l'apéro, c'est le goûter. Et tiens, si on faisait un ciné-goûter, c'est ce que propose aussi le cinéma Les Quinconces avec au menu à 14h30 demain, au choix. C'est soit Les Trolls 3, soit à 15h Katak, le brave beluga. Et je ne peux que vous le conseiller, puisque ici même, vendredi dernier, Olivier parlait avec émotion et engagement de Katak, le brave beluga. Donc c'est demain à 15h, avec un petit goûter à la clé, tout ça pour 5 euros. Et si vous voulez être sûr d'avoir de la place, je ne vous conseille de réserver et par téléphone, vous trouverez les coordonnées sur le site des Quinconces. Oui, réservez parce qu'en ce moment, les cinémas sont pris d'assaut avec le temps. J'en ai fait moi-même les frais hier. Autre chose, complètement autre chose. Depuis ce week-end, à Saint-Paul-le-Jeune, se tient la 3e édition des Contes éclatés, concoctée par Éric Derrien. Alors c'est un festival qui chuchote, compte, hurle, susurre, écrit le monde. Les deux prochains rendez-vous à noter, mais c'est demain mardi, à 17h, il y a le marché des sorciers. C'est la saison, forcément, de 17h à 22h, avec des artisans, des producteurs locaux, atelier marionnettes aussi, spectacle et musique. Donc voilà, un chouette moment pour se remonter le moral dans cette grisaille. Donc demain à 17h. Et puis jeudi à 19h, règlement de compte. Alors ça se passe, ce règlement de compte se passe à la médiathèque de Saint-Paul-le-Jeune. C'est une causerie comptée sur la transmission et notre responsabilité face au monde. Large programme, je n'ai pas trouvé la réponse, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais enfin si tel est le programme, ça risque peut-être de durer un petit moment. C'est par Éric Derrien et c'est participation libre. Donc ça, ce sera jeudi à 19h à la médiathèque de Saint-Paul-le-Jeune. Je fais un petit saut dans le temps pour vous parler d'un autre événement qui aura lieu ce vendredi et qui est organisé par Bibli Les Lunes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez mes deux invités, Bibli Les Lunes, mais bien sûr, tu connais Alicia. Bibli Les Lunes, c'est une émanation de l'asso d'éducation pop La Fougue et qui propose plein de bouquins, et pas que d'ailleurs, mais autour de la planète féministe, queer, décoloniale et de toutes ces luttes. Et puis derrière tous ces livres se trouve évidemment une équipe en autogestion et en mixité choisie. Alors qu'est-ce qui va se passer vendredi? Eh bien, ça se passe déjà au pas de côté à Mercué, et il va y avoir une expo « Tu fais genre ou pas ?» et tout autour de cette expo, pas mal de choses. Vernissage de l'expo d'abord à 19h, donc cette expo qui est créée par la Legotech. Une lecture polyphonique à 19h30. Veux-tu un petit peu d'eau, Alicia, pour te remettre de tes émotions? Je ne sais pas si c'est si ça a à voir avec ta conduite en aquaplaning pour venir jusqu'à nous. Ou par le menu très alléchant de cette... Oui, c'est ça, probablement. Alors, reprenons le fil. Essayons de reprendre le fil, puisque ce sera vendredi, donc, Bibli Les Lunes. Autour de cette expo, tu fais genre ou pas, donc, vernissage à 19h, lecture polyphonique à 19h30, concert à 20h30, concert de la reine Garçon, Accepte-toi, nous chantent Flo et Guidolé et Delphine Passant, duo et couple au féminin pluriel, deux guitares et deux voix pour des chansons de libération en apesanteur, douces et épurées, comme Anthony, mais sans les Johnsons, et Johnny Mitchell qui broderaient ensemble, bord du ciel, enfin, vous imaginez. Et l'essentiel, c'est cette expo, donc, l'expo genre, qu'est-ce que c'est? Ça permet de donner quelques billes historiques à chacun et chacune pour se saisir des débats actuels, d'en mesurer les enjeux et de prendre position dans notre société. Voilà, donc ça, ce sera vendredi au pas de côté à Mercué. Et puis en plus, vous pouvez retrouver la bibliothèque, qui est une bibliothèque mobile des Blibli, de la Bibli Les Lunes. Elle sera ce samedi de 10h à 12h à Lussas, à la bibliothèque municipale de Lussas. Allez, la dernière petite actu pour faire transition, c'est jeudi prochain que ça a lieu à 18h, quoi donc, la 3e rencontre autour du projet de sécurité sociale alimentaire sur le territoire Sud Ardèche qui est co-organisé par le CIVAM, Terre et Humanisme et des producteurs et productrices locaux. Ça se passe à la salle Grand Fond à Joyeuse et ce sera suivi d'un repas partagé. Allez, on prend l'air avant de retourner les pieds dans la terre.
J'ai passé mon enfance sur une planche à roulettes. et mon adolescence sur une planche à voile. C'est curieux quand j'y pense, il faut y voir peut-être une folle appétence, un désir insatiable pour les planches. Les années ont passé, j'ai dédié ma jeunesse à des planches nimbées de charmes inconnus. Je me l'étais juré et j'ai tenu promesse, la scène aura été ma planche de salut. J'ai passé ma vie sur des planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-manche voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle j'avais déposé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Sinon m'a savonné la planche à mes débuts, ça n'a pas entamé mon envie d'en découdre. Les planches m'ont fasciné, sitôt monté dessus, j'ai voulu les brûler, à l'instar de la foudre. J'ai passé ma vie sur des planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-manche voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle j'avais été posé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Clos, on a failli flancher, abdiquer pour de bon. Comme d'autres, on a planché, reclus dans nos labos. Puis les planches ont résonné sous nos pas de nouveau. Je passerai ma vie sur des planches, c'est une vocation, c'est inné. Tant pis si la vie me débranche, façon Molière en plein métier. Je passerai ma vie sur les planches. Je passerai ma vie sur les planches.
Youhou! C'était Archimède, Les Planches. C'est une nouveauté Fréquence 7, extrait de leur sixième album Frères, sorti le 6 octobre 2023. Et c'est le choix de Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
Qui est là derrière la vitre pour nous préparer cette émission. Enfin, pour nous réaliser cette émission. Alors, le sujet du jour. D'un côté, un Français sur cinq déclare se priver de nourriture. Chez les moins de 40 ans, c'est une personne sur quatre. Alors ça lié bien sûr à l'inflation, elle-même liée à une dépendance du système agro-industriel. Et puis bien sûr, quand la précarité alimentaire s'accroît, ce sont aussi les associations d'aide qui s'emballent. On comptait 2,4 millions de bénéficiaires fin 2022, donc bénéficiaires de l'aide alimentaire, soit trois fois plus qu'il y a 10 ans. Selon une étude de l'Institut CSA publiée en février dernier, 63% d'entre eux déclaraient s'y rendre à cause des prix trop élevés dans le commerce, et plus d'un tiers des personnes accueillies s'y rendent depuis moins de 6 mois. Si je resserre la focale ici en Ardèche, pour prendre un exemple, les Restos du Cœur d'Aubona ont aidé l'année dernière 422 familles. C'était 20% de plus que l'année dernière, et sans doute moins que l'année qui vient. D'un autre, et puis la question aussi, c'est pour quelle qualité de nourriture donner. D'un autre côté, la précarisation touche également les agricultrices, les agriculteurs, paysannes, paysans, qui sont dépendants au jour le jour des soubresauts des marchés financiers, sans aucun filtre, sans mécanisme d'amortissement. Et puis tout ça sur fond de dégradation de la terre, de l'eau, de l'environnement. Alors, si face à ce constat vertigineux, certains baissent les bras et subissent, d'autres s'en emparent, proposent des initiatives. Certains même imaginent une refonte du système qui agirait à tous ses niveaux et qui s'appellerait la sécurité sociale alimentaire. Alors, à nos micros, deux représentants de ces ouvriers de cette démocratie alimentaire pour en parler. Je le disais tout à l'heure, Alicia Bird est avec nous, coordinatrice des CIVAM d'Ardèche. Rebonjour Alicia.
Rebonjour.
Et Pierre-Yves Marais, donc arboriculteur de Saint-Michel de Boulogne, engagé dans la construction de la sécurité sociale de l'alimentation ici en Ardèche. Première question pour vous, Pierre-Yves, qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation ou alimentaire ? Les deux se disent ?
Oui, les deux se disent ben bonjour, rebonjour. Tout d'abord, il faut revenir un tout petit peu en arrière, petit historique mais très rapide de l'agriculture qui prend un autre tournant à partir de la création de ce qu'on appelle la Révolution verte, la création de la PAC à partir de 1962, et qui a fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a fait qu'une grande partie des producteurs sont devenus des producteurs de matières premières au plus bas prix. Donc devant ce constat, on sait qu'on sait produire autrement, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une alimentation sans pesticides, une alimentation de qualité, mais on ne répondrait pas au marché de l'économie libérale. Donc le seul moyen de répondre, de réussir le pari de sortir l'agriculture de pesticides et d'en faire une production vertueuse, c'est de sortir l'alimentation des marchés. Et le seul moyen de sortir l'alimentation de marché, bah, c'est de la rendre accessible à tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on discute des prix, ben forcément, on se met en concurrence les uns aux autres à l'intérieur du pays, mais également avec des producteurs d'autres pays qui n'ont pas ni les mêmes règles sanitaires, ni même les mêmes règles sociales. Donc sortir l'alimentation des marchés, ça permettrait de pouvoir produire autrement et d'atteindre ce qu'on appelle la fameuse souveraineté alimentaire. Le mot a été repris et un peu galvaudé ces derniers temps, mais la souveraineté alimentaire, c'est véritablement ce qu'a dit tout à l'heure Alicia, ou toi, d'avoir une agriculture qui soit démocratique. C'est-à-dire une alimentation qui soit démocratique, c'est-à-dire que le choix de l'alimentation est fait par tout le monde, par tous les mangeuses et les mangeurs, pas que par les marchés. Donc cette solution, elle est évidemment terrible, puisque à partir du moment où on peut tous ensemble discuter de qu'est-ce qu'on mange et du coup, ben, qu'est-ce qu'on produit par rapport à ce qu'on veut manger.
Donc ça, c'est l'un des piliers de la sécurité sociale alimentaire, la démocratie, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Qui prend quelle forme ? Alors, Alicia.
Alors, donc c'est effectivement de remettre tous les mangeurs autour de la table et de pouvoir discuter avec les producteurs de cette nourriture. Et ça passe, donc, dans la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, c'est de vraiment se baser sur trois piliers pour répondre à cette démocratie. C'est le conventionnement, donc de conventionner avec des producteurs de l'alimentation, des distributeurs qui répondent à des critères définis démocratiquement entre justement les mangeurs, les producteurs, etc. En toute connaissance de cause, donc c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier son alimentation, se re-questionner d'où ça vient, comment c'est produit, etc., pour définir un choix de conventionnement. Ensuite, c'est l'universalité, c'est-à-dire que la sécurité sociale de l'alimentation, comme la sécurité sociale de santé, serait pour tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit le lieu de son habitation, ça serait vraiment pour tout le monde. Et ensuite, c'est un principe qui serait basé sur la cotisation, comme la sécurité sociale, donc sur la valeur du travail. Mais ça, on pourra le retravailler qu'à une échelle nationale, et ça sera re-questionné également sur le fonctionnement de ce financement-là.
Oui, parce que tu inclus tout de suite une petite limite, c'est-à-dire qu'effectivement, si on parle de cotisation, alors c'est des personnes qui travaillent, et les plus précaires ne travaillent pas tous. Et donc, que faire justement si précisément l'idée est de lutter contre justement la précarité alimentaire voilà. Comment, bon, là c'est un nœud, mais on voit bien que c'est vraiment un modèle global.
Il y a bien entendu. En fait, tout le monde a le droit à la carte vitale de l'alimentation, pas seulement ceux qui cotisent. Voilà, c'est le même principe que la sécurité sociale de la santé, enfin d'avant 1967. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut en bénéficier. Maintenant, évidemment, celui qui a un plus gros revenu, alors après, les revenus, ça se discute, c'est peut-être pas forcément que les revenus du travail, mais tous ceux qui ont des plus gros revenus paieront plus cher que ceux qui ont des faibles revenus. C'est une façon de repartager les richesses. C'est un acte de solidarité, la sécurité sociale de la santé, réellement. Et cette solidarité, elle va au-delà du simple fait de manger bien, elle va au-delà aussi de tous les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'on a une agriculture aujourd'hui qui émet énormément de gaz à effet de serre, qui utilise mal de l'eau, enfin, qu'on va rentrer dans des trucs plus on laisse cette agriculture dans les marchés, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle s'industrialise et elle est de moins en moins vertueuse et de plus en plus polluante, et alors qu'il faut aller au contraire à l'opposé de ça, quoi. Et toutes les démarches individuelles qui ont été faites, comme l'agriculture bio, ça n'a pas marché. Donc il faut véritablement faire quelque chose qui soit à grande échelle, parce que l'agriculture bio, c'est moi je suis en bio, hein, j'ai pas de honte à être en bio, mais c'est une question, on est encore dans les marchés, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne si les gens veulent bien l'acheter.
Voilà, c'est ça. Et avec comme préalable que ça a un certain coût qui est en fait pas un coût indexé sur la réalité de ce qui est produit, c'est-à-dire... est-ce que, enfin voilà, combien d'heures de travail ça nécessite, est-ce qu'on préserve la terre ou pas, tout ça n'est pas finalement dans le prix final. Donc effectivement, ça ne joue pas un jeu, enfin, ça joue le jeu effectivement du marché actuel. Mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue, Pierre-Yves, précisément parce que ça remet l'agriculture, et on en parlait un peu hors micro, l'agriculture au centre de cette sécurité sociale et alimentaire. Je disais, pour préparer l'émission, j'avais écouté et lu certains articles, certaines émissions autour de la sécurité sociale et alimentaire, et particulièrement dans l'écoute d'émissions, c'était très très focalisé sur la consommation. Sur nous en tant que consommateurs, et pour faire face aussi à une question qui est éminemment actuelle, qui est soulevée depuis d'autant plus quelques mois avec cette inflation, et même depuis le Covid, où on sent bien qu'il y a vraiment une précarité de la part des consommateurs. Mais donc tout était centré sur les consommateurs et pas du tout sur les producteurs à la base. Et là, donc, c'est intéressant de voir que, effectivement, le nœud du problème est peut-être d'abord là.
Et juste pour l'agriculture, pour rappeler encore une fois les vertus que mènerait la sécurité sociale de l'alimentation, ce serait d'abord énormément de création d'emplois, parce qu'on pourrait avoir une agriculture qui crée de l'emploi, plutôt que d'avoir une agriculture qui tire sans arrêt au plus bas prix, et surtout le territoire. C'est-à-dire qu'on pourrait s'installer sur tous les territoires, puisqu'on ne serait plus sur rechercher à produire au moins cher. Donc évidemment, de concentrer ce qui s'est fait depuis des années, où on a concentré les productions selon, pour des raisons des fois de situation. Par exemple, les cochons, s'ils sont en Bretagne, c'est pas parce que la Bretagne fait mieux du cochon, c'est parce qu'elle n'est pas loin des ports, P-O-R-T. Si on avait une sécurité sur l'alimentation, on pourrait réinstaller sur tout le territoire, avoir une agriculture diversifiée, au lieu d'avoir, comme on fait aujourd'hui, on produit des légumes au Maroc ou en Espagne, donc on exporte de l'eau de régions où il y a très peu d'eau, on est dans un truc complètement à l'envers, quoi.
Et alors, il faut expliquer pourquoi la sécurité sociale alimentaire permettrait ça.
Parce qu'on ne serait plus dans des marchés, c'est-à-dire qu'après, le prix d'un produit on serait dans la solidarité. C'est-à-dire qu'après, un produit, ça vaudrait tant, et le producteur, après, évidemment, il y aurait certainement des règles à appliquer, mais le producteur, il ne serait pas tenu de vendre au plus bas prix. Il serait vendre au prix qui lui convient. Si pour produire un kilo de poireaux à Aubenas, ça coûte tant, ça coûtera tant. Et puis si ça coûte moins cher de produire un kilo de poireaux en Bretagne, ce sera comme ça, mais il n'y aura pas de concurrence entre le Breton et l'Ardéchois.
Juste pour asseoir ça, justement, c'est le pilier du conventionnement. C'est-à-dire que par le conventionnement et ce fonctionnement, parce qu'il faut créer des caisses locales, du coup, de gestion, donc on y viendra après, mais le conventionnement permettrait de, sur des critères établis démocratiquement, de justement rémunérer les producteurs.
De choisir les producteurs sur certains critères, voilà. De délimiter ensemble ces critères, c'est ça ?
Et de définir une juste rémunération, peut-être qu'enfin on calculera le taux horaire des agriculteurs. C'est un des derniers métiers où le taux horaire n'est pas calculé, tellement il serait bas. Mmh. Donc enfin, on les paierait à leur juste rémunération.
Mmh. Alors j'ai lu que certains proposaient, dans cette sécurité sociale alimentaire, que chacun dispose de 150 euros par mois pour des produits choisis donc par une gouvernance. Est-ce que c'est ça là, aussi?
Alors, quand ils ont construit le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation,
en
2019, le Covid est passé par-dessus, ensuite a créé aussi de l'inflation, et l'inflation qui est arrivée ces deux dernières années va faire évoluer ces calculs-là. Mmh. 150 euros, c'était avant, c'était pour une personne ou une famille, je sais plus, ça déterminait une enveloppe alimentaire consacrée. En fait, ça sacralise un budget sur l'alimentation. Mmh. Puisque, justement, si on parle beaucoup des consommateurs, des mangeurs, c'est parce que les budgets de l'alimentation se voient réduire énormément, parce que c'est pas une facture fixe qu'on paye en début de mois, comme on peut le faire pour le loyer, l'électricité, etc. L'alimentation, c'est au cours du mois, etc. Et c'est celui-là que les familles vont adapter. Mmh. Et là, on sacralise du coup un budget destiné à une alimentation locale, saine, de qualité, qui répond à des critères de choix que chaque personne a le droit de choisir son alimentation également. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc comment on peut mettre ça en place? Et donc ça sacraliserait un budget. Et le budget, il faut le recalculer en fonction aussi de l'instant T, quoi.
Mmh. On parlait d'instances qui choisiraient démocratiquement quels agriculteurs seraient conventionnés, quels critères, etc. Comment seraient mises en place ces... qui décide?
Les citoyens. Et donc là, justement, le terme de démocratie, le terme citoyen, il répond réellement à la démocratie. Tout le monde est concerné par l'alimentation. C'est vraiment un sujet qu'on doit manger, de toute façon.
Mais c'est-à-dire concrètement, quelle forme ça prend?
Eh ben,
c'est une caisse locale.
C'est une caisse locale.
D'accord.
La création de caisses locales.
Ok. Création de caisses locales.
Avec des sites, avec des mangeurs, des mangeuses, des agriculteurs, des agricultrices.
Des distributeurs, ça peut être... Mmh. C'est tout le monde.
Mmh. Ok. Alors, là on parle donc de la sécurité sociale alimentaire. C'est vraiment un modèle macroéconomique. Ici, localement, qu'est-ce qui se passe?
Alors, effectivement, donc c'est vraiment l'idée de porter ça sur un changement de système. Là, on vient appuyer un changement de système alimentaire où on replace l'agriculture au centre de l'alimentation. C'est aussi ce principe-là. Localement, il faut démontrer qu'on peut que les citoyens locaux prennent en main la question de l'alimentation. Et donc, actuellement, en Ardèche, déjà, on en parle. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Et il y a donc sur Aubenas et sur La Blachère et Joyeuse, d'où la soirée de jeudi, où on interpelle les gens. On vient questionner justement qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Est-ce qu'ils veulent s'impliquer dans des démarches autour de leur alimentation? Est-ce qu'ils veulent rencontrer des producteurs locaux? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vers les producteurs locaux, parce qu'il y a un détachement total dans notre système actuel entre l'alimentation et l'agriculture. On ne relie plus les deux, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, etc. Il y a des effets sur la santé aussi, hein. Il faut replacer l'agro-industrie dans les méfaits qu'elle a sur notre santé, au-delà de l'environnement, mais aussi la santé humaine. Et les questions de liberté de choix, parce que on doit pouvoir choisir ce qu'on mange en fonction de ses envies et de ses croyances, etc. Et donc, pour ça, il faut mettre les gens autour de la table. Et donc, on crée des réunions publiques, des temps d'information. Alors, je vais parler plutôt de ce qui se passe à La Blachère Joyeuse, et puis je laisserai Pierre-Yves avancer sur Aubenas. Là-bas, donc, on a fait on est à notre 3e rencontre. La première était un film qui a été fait par Réseau Civam en 2019, qui s'appelle La part des autres, et qui était vraiment l'idée d'aller rencontrer les publics en situation de précarité, les associations qui les accompagnent, et de mettre en évidence aussi tout le travail qui est fait par ces structures, et aussi de montrer des alternatives qui existent pour créer les liens justement entre les producteurs et les consommateurs, et qui met en évidence l'évidence les problématiques du système vicieux alimentaire dans lequel on est. Ensuite, on a fait une deuxième, pour que tout le monde ait une connaissance partagée de ce système-là. Et puis, une deuxième rencontre, où là, c'est une initiative qui a lieu dans le Vaucluse, qui s'appelle Omaki, qui est une personne qui est venue présenter cette initiative de SSA, de Sécurité Sociale de l'Alimentation, et voilà, pour aussi donner des idées, parce que des expérimentations, on en a un peu partout actuellement.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler, enfin, est-ce que tu peux nous dire, il y a des expérimentations qui sont faites dans la Drôme, dans le Vaucluse, à Bordeaux, je crois, Montpellier, Saint-Étienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui essaime un peu partout, avec donc des expérimentations qui sont... est-ce que tu peux nous donner un exemple
qui sont concrètes et différentes? Par exemple, je vais parler de deux expérimentations que je connais le mieux. Il y a le marché à prix différencié à Diolfi, qui est un marché qui a été construit par les citoyens et producteurs qui voulaient vraiment commercialiser ces produits auprès de tous. Et donc, ils ont monté le conseil local de l'alimentation et ont décidé d'affecter des prix. Donc, avec le maraîcher et les producteurs, ils ont déterminé les prix justes. Mmh. Et puis, c'est créé le prix solidaire. Donc là, c'est à plus 25%. Du prix juste, et le prix accessible à moins 35%. Mmh. La volonté était de ne pas créer de discrimination, donc les personnes choisissent une bille de couleur sans aucune vérification, on ne leur demande pas leurs coefficients familiaux, etc. C'est vraiment à la confiance que cela se fait, et puis en fonction de la bille de couleur, le prix payé est soit accessible, soit solidaire, soit juste. Et puis cette solidarité, du coup, entre les personnes qui peuvent payer le prix solidaire, permet de rendre accessibles les prix accessibles justement pour les personnes qui en ont besoin. Et ça fait 2 ans que ça fonctionne. Parce que ça a tellement bien marché sur les prix accessibles à Diolfi que la caisse commune était déficitaire. Donc pour rémunérer les producteurs, c'était complexe. Donc ils ont répandu ce fonctionnement à un autre marché et puis à un autre lieu de vente pour qu'il y ait des compensations entre les différents lieux de vente et que la caisse commune soit à l'équilibre. Et donc ça a fonctionné, donc aujourd'hui ils sont à l'équilibre et ils continuent, donc un dimanche par mois je crois, ils se retrouvent, le conseil local de l'alimentation se retrouve pour justement définir ça. Et puis à Montpellier, c'est une autre échelle, hein, c'est un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui a impliqué tout un tas de structures et de personnes, où là ils font vraiment une expérimentation où la collectivité a mis des fonds aussi dans la caisse commune et a permis à 350 personnes, je crois qu'ils sont choisis par tirage au sort, avec une veille à ce qu'il y ait beaucoup de personnes en situation de précarité ou qui ont des difficultés à acheter leur alimentation, puissent s'investir dans ce conseil-là. Et donc là, il y a un conseil local de l'alimentation aussi, bien sûr, et puis une caisse commune qui est gérée. Ils ont créé une monnaie virtuelle de l'alimentation pour payer les producteurs, payer les lieux de vente qui sont conventionnés, du coup, par le conseil local. Et voilà, donc ça a différents formats. Saint-Étienne, c'est un autre format, je crois, aussi. Et puis, en Gironde, là, c'est le conseil départemental qui a mis en route 3 caisses locales sur le département. Voilà, ouais. Il y a plein d'expériences.
C'est ça qui est intéressant aussi, mais je vais peut-être d'abord laisser parler Pierre Imaret sur ce qui se passe à Aubenas. Mais voilà, savoir comment ça s'articule avec les collectivités territoriales, quel est leur intérêt ici en Ardèche, par exemple. Est-ce qu'il y a des collectivités qui sont intéressées ou quels autres partenaires sont partie prenante de cette entreprise?
Juste sur Aubenas, bon, c'est les balbutiements. On s'est retrouvé depuis le printemps avec le CIVAM, la Confédération Paysanne, l'Indecosa, c'est une association de consommateurs liée à la CGT, le centre social et tout. Bon, l'idée là, c'était véritablement de la réflexion, c'était toujours pareil, hein, on part souvent de ce point-là, c'était comment de fournir une alimentation de qualité aux personnes qui ont des difficultés à se nourrir correctement, quoi. Donc on est parti de là, et bon, on va voir ce que ça donne, mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essaimer, de faire entendre, d'alerter, de montrer que c'est une solution qui est possible. Est-ce qu'on se rend compte quand même que la grande difficulté du projet, ça va être de te trouver ce fameux tiers payant, c'est-à-dire comment on compense pour que les gens ne peuvent pas payer, par comment c'est compensé. Et c'est là où ça devient plus politique que le reste, quoi.
Simplement, là, vous avez parlé donc de ce qui se passe à la Blachère, de ce qui se passe à Aubenas. Pour les auditeurs, comment, s'ils sont intéressés, ils peuvent intégrer l'une ou l'autre des initiatives?
Ils peuvent m'envoyer un mail ou m'appeler, mais qu'ils viennent.
Déjà jeudi à 18h à Joyeuse, à la salle Grand Fou.
Pour le territoire plutôt de ce bassin de villa, Baume d'Roby, Pays des Vences, les échelles territoriales, c'est pareil, on ne sait pas encore quelle échelle finalement, est-ce que ça sera sur un quartier, un village, une communauté de communes. Est-ce qu'on se fixe des barrières administratives ou pas? Là, en plus, à la Blachère, il y a Terre et Humanisme qui est très impliqué, des producteurs locaux de différentes productions. Donc, il y a des marchés entiers de producteurs qui voudraient se mettre en route. Mais la démocratie, c'est long, ça prend du temps. Donc...
expérimenter des choses, mais
tout de suite, on va mettre les gens autour de la table. Donc, effectivement, sur jeudi, l'idée, c'est vraiment de construire les balbutiements de la démocratie en questionnant sur qu'est-ce qu'on a envie de manger, etc. Et sur Aubenas, on construit en tout cas pour aller dans cette démarche-là, puisqu'il y a l'idée d'un questionnaire aux habitants sur qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, etc.
D'accord. Un questionnaire à tous les Albéniciens.
Non, pas forcément. On va rester sur le quartier des Oliviers pour commencer. Ouais.
D'accord. Ok. Ouais.
Mais juste pour dire un dernier mot aussi par rapport aux producteurs, les producteurs sont vachement preneurs de cette sécurité sociale d'alimentation. Il y a beaucoup de producteurs qui seraient vraiment contents de pouvoir vendre vraiment à tout le monde, quoi. Parce que c'est pas évident de quand on est producteur de se dire ce que je vends, c'est réservé soit aux gens qui ont des moyens, soit aux gens qui font le choix, quoi.
C'est ça. Et ne pas laisser, c'est ce qu'on disait en préambule, ne pas laisser justement aux gens qui ont les moyens seuls le choix. Pas leur laisser simplement le choix.
C'est ça. Et juste pour les partenariats un peu aussi, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'accessibilité alimentaire depuis longtemps et depuis quelques années. Et donc, on implique vraiment les structures d'aide alimentaire, les structures sociales. Parce que l'idée, c'est vraiment pas de critiquer leur travail. Au contraire, heureusement qu'ils répondent à l'urgence alimentaire peuvent.
C'est pas de multiplier les initiatives, mais essayer de voir comment ensemble, vous qui travaillez déjà, qui êtes déjà sensibilisés au secteur, vous travaillez ensemble pour proposer quelque chose de plus global. Une dernière chose quand même sur les partenaires, enfin sur les collectivités territoriales, ici, quel soutien sur notre territoire, quel soutien en Ardèche?
Alors, au travers des plans alimentaires territoriaux qu'il y a de plus en plus en Ardèche, puisque les communautés de communes, c'est un appel à projet de l'État pour que les communautés de communes s'impliquent dans les questions agricoles et alimentaires, ils ont un axe où ils doivent travailler sur l'accessibilité alimentaire. L'ouverture à la sécurité sociale de l'alimentation et on fait de la sensibilisation auprès des élus pour que, justement, ils soient aussi ouverts à cette proposition-là et pas juste de comment on complémente la réponse à l'urgence. Et donc, c'est un processus. Donc, pour le moment, on fait de la pédagogie.
C'est en cours. Effectivement, la démocratie, c'est un processus long et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. On en reparlera sans doute à cette antenne parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire. Et puis, ça bouge, le processus, c'est en cours. Donc, dans quelques temps, on en reparle. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés.
Merci beaucoup.
Pierre-Yves Marais et Alicia Bird. Restez à l'antenne de Fréquence 7 puisque... vous allez pouvoir écouter dès 13h Les Jardins Suspendus, à 15h Le Telex, c'est vous qui parlez de vos événements ou de vos messages d'amour. Allez-y, on est preneurs. À 17h, c'est la rediffusion de L'Onde Curieuse. Et à 18h, c'est Solidaire d'abord. Et j'oublie Hexagone Live à 21h avec DJ Steph. Merci à tous, merci Sylvain. Nous, on se retrouve demain pour parler d'un tout autre sujet. Mourir dans la dignité, est-ce que c'est possible, souhaitable? On en parle.